Marathon infernal du côté de Wimbledon un peu plus tôt aujourd'hui. Kevin Anderson et John Isner se sont livrés tout un duel en 5 manches. La dernière manche est terminée 26-24, 6h30. Ça fait en sorte que l'autre demi-finale a dû être reportée en raison du couvre-feu. On en parle avec Hélène Pelletier qui est avec nous. Salut Hélène!
Bonjour, Jérémy.
Hélène, c'est incroyable. 6h30, John Isner qui est pris dans le deuxième plus long match, lui qui avait été pris dans le plus long match. Écoute, avant qu'on se parle du match, est-ce qu'il faut revisiter le règlement du côté de Wimbledon pour qui ont décidé de ne pas avoir le bris d'égalité dans la 5e manche? Oui. Il me semble que ça devient déraisonnable, tout ça.
Oui, absolument. Puis même Kevin Anderson, il l'a bien dit à la fin du match, ça devient vraiment ridicule quelque part parce que, écoute, les joueurs sont de plus en plus grands, couvrent le terrain de mieux en mieux. Ils servent tous extrêmement bien, donc on se rend loin dans les sets. Il faut à un moment donné qu'il y ait un fil d'arrivée qui soit visible pour tout le monde. Déjà jouer au meilleur des 5 manches, c'est hallucinant. Alors, John Isner, malheureusement, il a perdu ce match-là parce que dans bien des moments, il était meilleur que Kevin Anderson, mais il a perdu parce qu'il n'arrivait plus à marcher, littéralement. Et lorsqu'il avait joué le long match en 2010, 70-68, ça s'était joué en plus d'une journée, donc il avait un peu la chance de refaire ses forces, mais même à ce moment-là, il avait été comme une locumène lors du deuxième match de deuxième tour, incapable de marcher. Alors, non seulement ça, ça devient plus qui est le meilleur joueur de tennis, qui est celui qui utilise la meilleure stratégie. Ça devient comme un peu une folie. Qui va être capable de parcourir le plus de distance? C'est lui qui va gagner. Alors, il y aurait en plus pu y avoir un joueur qui se blesse gravement. Tu sais, quand tu vas chercher une balle, puis à un moment donné, la cheville tourne et puis tu te casses peut-être même un os de la cheville, ça peut avoir des implications pour le reste de la carrière alors qu'on a 4 trentenaires en demi-finale. Alors, tu sais, il n'y a aucune considération pour ça, puis je les trouve tellement lents à amener, à être raisonnable pour les joueurs qui s'entretuent. On avait tellement de grands blessés dans la dernière année et demie. Qu'est-ce que ça leur prend, les organisateurs? Ah, je sens que je suis en train de m'emporter.
Non, c'est bon, continue, on t'écoute.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est fou. Il y a juste le US Open qui joue à bris d'égalité 5e set, et déjà là, on a des matchs de fou de 4 heures, de 5 heures aussi, avec le bris d'égalité. Alors, c'est bravo sur toute la ligne à Kevin Anderson, qui a été absolument remarquable pour renverser la situation au 4e set, alors qu'on le semblait perdu, parce que pendant les 3 premières manches, soyons honnêtes, Isner a été meilleur. Isner aurait pu gagner le 1er set. Il a eu balle de manche, ne l'a pas fait, perd au bris d'égalité, gagne le bris d'égalité de la 2e manche, et le bris d'égalité du 3e set lui a filé entre les doigts malgré des balles de manche. Alors, écoute, il s'est passé plein de choses. Ça a été super intéressant. On a eu du beau calibre, mais au fil du match, au fil de la longueur du match, c'était vraiment comme soudainement un marathon, tu sais, et le moins épuisé des deux a gagné. Ceci étant dit, c'est une deuxième finale en Grand Chelem pour Kevin Anderson après le US Open l'année dernière, très mesuré par respect pour l'adversaire à la suite du dernier coup sur balle de match, mais en même temps parce qu'il veut aller chercher le titre. En sera-t-il capable maintenant? Peut-il se remettre de ce marathon-là et d'être d'attaque dimanche? Puis en même temps, ça devient, ou je pense que ça a une incidence sur bien des choses. Nadal et Djokovic commencent leur match à 20h, heure de Londres. On a un règlement du côté des villageois, des riverains à Wimbledon. Si on grimpe le toit, on ferme le toit, on ajoute les lumières, on peut donc jouer le soir. Mais il y a une espèce de règlement de un peu fou. Et ça, c'est depuis qu'on a le toit, quoi, en 2008, qu'il est arrivé ce toit sur le central à Wimbledon. Et on ne peut pas dépasser 23 heures, imagine-toi donc. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on est à 2-7-1 en faveur de 2-7-1 en faveur de Djokovic. Ça veut dire que les dames, est-ce qu'elles méritent pas, Jérémy, de commencer leur finale à l'heure?
Clairement.
Non, mais en toi puis moi, puis la boîte à beurre, c'est le match de l'année à Wimbledon, la finale des dames, puis elles vont jouer après la conclusion du match entre Djokovic et Nadal, qui va commencer à 8h, heure de Montréal, donc à 13h, heure de Londres. Et les femmes, ben tout ce qu'on sait, c'est que ça va pas commencer avant 2h. Mais oui, mais c'est parce que c'était prévu à cette heure-là. Est-ce que Djokovic et Nadal vont avoir fini? Est-ce qu'une heure, ça va être assez? Si on sera encore à 26, 20, 24 au 5e set, les dames vont commencer à quelle heure?
Mais écoute, ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que le protocole est un peu en train d'étouffer Wimbledon. Est-ce que je me trompe?
Ben c'est juste que donnez-leur quelques millions de plus là dans la cagnotte pour le petit village de Wimbledon. Quand tu décides de vivre à Wimbledon, il y a des bonnes chances que tu aimes le tennis. Puis c'est une journée dans l'année, on n'en a pas abusé du règlement, ils ont même pas fermé le toit une seule fois pour allonger les matchs. Même pas. Le fameux samedi où Kyrgios et Nishikori ont été envoyés ultra tard sur le terrain numéro 1, et puis on leur avait dit que si le match ne se terminait pas en 3-7, qu'ils ne reviendraient pas le lendemain, qu'on ne fermerait pas le toit, puis qu'on les ferait pas finir sur le central, et qu'ils allaient continuer leur match le lundi, parce que c'est congé. Alors, tu sais, il y a plein de vieux règlements comme ça, mais dans la réalité d'aujourd'hui, alors qu'on joue au US Open jusqu'à 3 heures du matin, on ne s'inquiète pas des gens qui vont retourner à la maison un peu tard. Écoute, c'est vendredi en plus, on ne travaille pas le lendemain, c'est samedi. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité d'aller un petit peu plus loin que le bris d'égalité de la troisième manche et de dépasser d'un brin d'un petit 10 minutes? C'est ridicule. Puis repartir la machine pour Djokovic et Nadal, ce ne sera pas facile non plus. Alors, écoute, je veux pas avec mes commentaires négatifs un peu entacher la belle journée de tennis. C'était extraordinaire. Le calibre de jeu entre Djokovic et Nadal, des échanges à couper le souffle, c'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Mais en même temps, tu sais, c'est pas normal non plus quand les organisateurs volent la vedette. Hein?
T'as bien raison. Puis, à quelque part, est-ce qu'il faut. À un moment donné, je pense que Wimbledon devra se ranger dans une idée de télédiffusion également.
Oui.
Tu sais, le sport est là pour être télédiffusé, oui, pour être sur place, mais on vend des droits de télévision qui valent des millions et des millions de dollars. Donc, le sport est là pour être télédiffusé. Il faut s'adapter.
Il faut s'adapter, puis je pense que c'est super excitant. Le bris d'égalité, on l'a bien vu dans le match entre Isner et Anderson. On l'a vu également dans cette troisième manche entre Djokovic et Nadal. Nadal a eu 3 balles de manche à 6-5 dans le bris, à 7-6 alors qu'il était au service, et à 8-7 également, mais c'est Novak sur sa deuxième balle de manche qui réussit à renverser la vapeur. C'est comme un mini-match à l'intérieur d'une manche. Et c'était la seule façon aussi que John Isner puisse gagner le cinquième set. Il pouvait aller chercher un mini-bris, un point sur la séquence au service d'Anderson. Et puis c'est ça qui devient super excitant parce que soudainement, dans le bris d'égalité, les points prennent une ampleur. À un moment donné, il n'y en avait plus de fun là, à regarder le pauvre John Isner se traîner les savates. Alors, je pense que ça pourrait apporter beaucoup au sport. Puis même, tu le sais, on s'en est déjà parlé, moi je trouve que 3-7 pleins, c'est déjà bien en masse.
Oui, t'as raison.
Pas besoin de match de 6h22 puis de peut-être voir un John Isner qui sera pas le même cet été sur le dur parce qu'il va encore traîner ses deux problèmes aux genoux. Alors, faut prendre soin des joueurs. C'est eux qui font le spectacle. Ils méritent bien ça après tous les efforts qu'ils font. Même si aujourd'hui, c'est vrai, ils gagnent beaucoup plus d'argent qu'avant. Mais faut respecter le joueur. Et quelque part, on ne leur demande pas leur opinion. On leur impose des choses. On fait des règlements propres à chacun des tournois. Et à un moment donné, c'est juste too much.
T'as bien raison, Hélène. Je t'appuie à 100% et il faudrait peut-être qu'on commence à arriver en 2018 du côté de Wimbledon. Hélène Pelletier, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, Jérémy. Bye-bye.
Merci. Au revoir, Hélène Pelletier, qui nous parlait de ce duel entre Kevin Anderson, entre autres, et John Isner. Je vous rappelle, 6h30. Le dernier set, le cinquième au total, s'est terminé 26-24 en faveur de Kevin Anderson, évidemment, qui va aller en grande finale affronter le gagnant entre Novak Djokovic ou Rafael Nadal. Mais c'est pas le plus long de l'histoire. Le plus long de l'histoire, c'est en 2010. Le match a duré sur 2 jours, soit dit en passant, 11h05. C'était entre John Isner, encore une fois, et Nicolas Mahut, le Français. Le dernier set a été gagné par John Isner, 70-68. Le dernier set a duré 8h11. Un moment donné, il faut que ça change. On s'arrête quelques instants, on s'informe. Au retour, Coupe du Monde, Impact, Jérémy Filosa, Vincent Destouches sont avec nous. Vous écoutez les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco.